vraie radio rock en Estrie.
Conditions actuelles, 24 degrés.
Pas pire pantoute, la radio de CFLX en Estrie.
95.5 FM.
Les vieilles chansons, qui tournent en rond. Les vieilles chansons, qui tournent en rond. Les vieilles chansons
qui tournent. Alors, chers auditeurs et auditrices de la plus belle et de la plus grande radio communautaire et musicale en Estrie, et j'ai bien évidemment nommé CFLX qui sévit sur la bande FM 95.5, une radio que vous pouvez aussi écouter quand vous voulez ou à partir d'où vous voulez grâce à notre site internet, le cflx.qc.ca. Même au moment où vous voulez, alors que on a intégré la merveilleuse technologie des podcasts qui fait en sorte que lorsque vous visitez notre site internet, vous êtes en mesure de consulter vos émissions préférées et de les réécouter encore et encore. Pour celles et ceux qui ne m'ont pas reconnu, ma douce et belle voix, c'est Étienne Alexis, directeur général de des organismes, soit la Société nationale de l'Estrie et de droit collectif Québec, qui produisent pour vous cette émission, qui a entre autres pour objectif d'alimenter la réflexion citoyenne, alors que les organismes ont comme mission de promouvoir la culture et l'histoire nationale du Québec, de défendre les droits collectifs des Québécoises et des Québécois, on s'est aussi donné pour mission de créer des espaces de débat citoyens permettant à vous, chers citoyennes et citoyens avertis de l'Estrie, de réfléchir aux enjeux auxquels fait face la société québécoise, et ce d'une manière non partisane, c'est-à-dire à l'extérieur des cadres très contraignants des partis politiques. Alors aujourd'hui, en ce magnifique mercredi 2 juillet, on va parler de ce drôle de pays qu'est le Canada, alors que hier, le 1er juillet, on célébrait, ou du moins avait lieu, ce qu'on appelle le jour de la Confédération, depuis 1867, je pense, sert de fête canadienne, où l'on célèbre le Canada. Or, c'est un drôle de pays que ce pays, et j'aurai le bonheur d'en discuter cette fois avec M. Daniel Turp, professeur émérite à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, un homme que vous avez déjà entendu, ou je dirais plutôt un immense intellectuel que vous avez déjà entendu à cette émission. M. Turp nous a fait le privilège d'accepter notre invitation pour parler du Canada. Et comme je veux donner le plus de temps possible à notre entrevue, je vais très rapidement le passer sur sa biographie qui, je vous le dis, là, j'en aurais pour l'émission au complet là, si je déclinais l'ensemble des réalisations du professeur Turp. Sachez simplement qu'il est né à Verdun le 30 avril 1955 et j'aurai donc le bonheur de célébrer son 70e anniversaire ce samedi 5 juillet. C'est évidemment un bonheur et un honneur de célébrer un aussi grand intellectuel qui, sachez-le, détient une licence en droit de l'Université de Sherbrooke, 1977. Alors, Daniel connaît bien notre région et son parcours éducatif lui a permis d'être membre du barreau dès 1979. Mais c'est d'abord et avant tout, à titre de professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, qu'il s'est fait connaître. Il y a, sévi dans une première carrière de 1982 à 2003. Suite à cette 2003, il a fait toutes sortes de mandats. Écoutez, il a été invité dans des universités, là, à peu près une dizaine d'universités l'ont invité à titre de professeur invité. Mais ce qui est extraordinaire avec Daniel, c'est que c'est pas juste un gars d'idées, c'est aussi un gars d'action. Alors que il a eu envie de traduire ses convictions dans la réalité, dans le concret, notamment en étant élu au fédéral, justement, à titre d'élu du Bloc québécois dans Beauharnois-Salaberry dès 1997. Et par la suite, est devenu député du Parti québécois en 2003. Il fut réélu en 2007 et a conclu finalement sa carrière à nouveau comme professeur à l'université de à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Là. Jusqu'à il y a peu, là, il a pris sa retraite il y a de cela quelques années. Une retraite qui ne lui a permis que d'être encore plus occupé que lors de sa carrière professionnelle en tant que telle. Alors que Daniel offre à plusieurs organismes, dont Droit Collectif Québec, ses services à titre de bénévole. Je vous cacherai pas que pour Droit Collectif, de le compter à la tête, à la présidence de son conseil d'administration, a été vraiment un de mes meilleurs coups à vie. Alors qu'évidemment, comptant Daniel Turp, président de Droit Collectif Québec, peu importe comment nouveau est cet organisme, il est nécessairement crédible aux yeux de la société québécoise et de ses décideurs et décideuses. Je m'arrête immédiatement l'introduction. J'arrête tout de suite cette introduction pour entamer avec une première pause musicale qui me permettra de joindre par téléphone notre ami Daniel Turp. Et cette première chanson est une chanson thématique avec ce qui se passe aujourd'hui, soit on célèbre ou du moins on se questionne sur le Canada et la drôle de relation que le Québec a toujours eue avec cette entité politique. On va faire jouer une première chanson intitulée « Résistance » d'un groupe chouchou de cette émission, les Locaux Locasses, une chanson tirée de l'album « Amour oral » publié c'était 2004. Alors, on se voit tout de suite l'autre côté de cette courte pause musicale en compagnie de Daniel Turp, professeur à la retraite de la Faculté de droit de l'Université de Montréal.
Moi, le monde, je veux pas savoir d'où ils viennent. Je veux savoir où ils vont. Le monde, ils peuvent être blanc, jaune, noir, mauve, bleu, avec des pitons en orange. M'en calisse. S'ils veulent se battre avec moi, c'est mes frères. Alors, on n'est pas des racistes. Il faut arrêter de toujours s'excuser. Le problème est bien simple. Le Québec, c'est un pays conquis et annexé par la force. T'es conquis par la force des armes en 1760, puis annexé par la force avec l'acte d'union en 1840. Puis la Confédération, c'est juste la suite de l'acte d'union. Donc, le peuple québécois est un peuple soumis, un peuple vassalisé, un peuple inféodé à un autre.
Comment faire l'épreuve de la réalité? Au royaume des aveugles, les rois sont des Kodak. syllabes mécaniques dans ta tête, tu es dingue, gnick, yo. Moi, j'étais toujours ma tête à papineau, bite qui est pas con, me coiffe de mes idiots. Bip d'un très blable, l'horreur d'un siècle sans que ni quête ou l'erreur fut inhumaine, nous mène en deçà d'un humanisme à redire. Si c'est faux, mais t'es grand, Dieu m'en met, penche posable, m'ancre dans cette dans appartenance. Dieu, y'a pas de transcendance, ceux et celles, tous ces gens qui s'allègent de leur allégeance, allégant l'urgence de l'amour immense, l'imminence des grands ensembles et sans racine dans l'errance pour vivre la totale appartenance qui a toutes et toutes les apparences. Totalitarisme en essence qui fait des particularismes nuisants. De moi, un terroriste en puissance. Quand je parle de la résistance.
Si tu veux te battre avec moi, t'es mon frère, peu importe la couleur que tu as, que tu sois jaune, bleu, mauve, avec des pitons jaune-orange. J'aime tellement cette phrase-là, ça résume tellement mon esprit, mon état d'esprit, et j'oserais dire l'état d'esprit de notre invité. Je le disais en début d'émission, on a le bonheur d'avoir M. Daniel Turp, professeur à la retraite, mais professeur émérite de la Faculté de droit de l'Université de Montréal. M. Turp, bonjour.
Bonjour, M. Boucher, vous allez bien?
Eh bien, avec une telle chanson, ça met dans l'ambiance, d'autant plus que j'ai le bonheur de vous recevoir à nouveau à l'émission. Et je tiens à vous informer, chers auditeurs et auditrices, Daniel et moi, on a pris un pari, à savoir qu'on allait être en mesure de passer à travers les 8 questions prévues, sachant qu'on est deux loquaces, pour ne pas dire loco-loquaces, je vous jure, c'est tout un défi et c'est pas et que nous tenterons de relever dès à présent. Évidemment, Daniel, je me permets de vous appeler Daniel, là, je vous remercie énormément au nom de l'ensemble des organismes qui prennent part à cette émission, soit la Société nationale, CFEDX, Droit collectif Québec, d'avoir accepté notre humble invitation, alors que, moi, le 1er juillet, là, je peux vous dire que j'ai travaillé fort. Là. Je me fais toujours un point d'honneur de ne jamais prendre ce congé qui est férié de par la loi. Or, c'est quand même d'un nécessaire absolu de mieux connaître, je pense, le Canada, ses origines, ses traditions et les dynamiques sociopolitiques qui le construisent, le définissent, afin de mieux comprendre la situation dans laquelle se trouve le Québec, foyer national de cette nation francophone d'Amérique, vaincu par les armes en 1760, comme l'a si bien dit Loco Locas, et assujetti politiquement depuis lors, peu importe les accommodements raisonnables ou déraisonnables accordés depuis politiquement. Donc, en commençant, Daniel, une petite facile, là. Qu'est-ce qu'on fait le 1er juillet? Quelle est l'origine de ce qui met qu'un congé férié quelconque?
Ben, le 1er juillet, c'est la date d'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle de 1867. Cette loi britannique qui créait une colonie appelée Dominion. Il n'y a pas vraiment de grande différence entre les deux appellations, là. C'est donc la date choisie qui résultait de la création de cette fédération qui n'était pas un pays, là. Et donc, on célèbre depuis cette époque-là la fête du Dominion, qui est devenue la fête du Canada un peu plus tard. Là. C'est ça qui explique pourquoi c'est fêté le 1er juillet au Canada.
On comprend donc qu'on fête le 1er juillet l'adoption, ou même pas l'adoption, mais plutôt la mise en vigueur de l'acte de l'Amérique du Nord britannique, qui était une loi britannique, hein, c'était pas une loi canadienne, en 1867, qui est considérée comme l'acte fondateur du Canada moderne. Puis là, vous avez, Daniel, là, glissé là, tranquillement sur cette deuxième question, à savoir qu'on n'était pas un pays, on était une colonie, mais qu'on ne désignait pas en tant que tel, mais plutôt comme un simple dominion. Et même après 1867, Ben, le Canada n'était toujours pas un pays. Hein. Par exemple, il ne décidait pas de sa politique étrangère qui était gérée par la Grande-Bretagne. Ce qui n'est pas un petit détail là, pour celles et ceux qui sont férus d'histoire ici et qui nous écoutent. Rappelez-vous la guerre des Bowers en 1899-1902. Le Canada n'a pas choisi d'être impliqué dans cette guerre. C'est vraiment puisque la Grande-Bretagne avait déclaré la guerre aux Bowers, ben, automatiquement, le Canada était entraîné dans celle-ci, tout comme dans la Première Guerre mondiale. Alors, ce n'est que... Partu du statut? Ouais, OK. Ce n'est que dans une suite d'événements, dont 1931, avec l'octroi, si on veut, du statut de Westminster, grâce auquel le Canada pouvait désormais décider lui-même de sa politique étrangère, qu'on allait tranquillement vers l'idée d'un pays véritablement indépendant. J'ai le goût de vous poser une question, Daniel. Bon, on parle de 1867, on parle de 1931, mais... Mais encore en 1931, le Canada n'était pas tout à fait ce dont on se fait à l'idée comme étant un pays. À quel moment le Canada est devenu un vrai pays?
On a une réponse à ça dans des arrêts de la Cour suprême du Canada. C'est assez curieux là, que ce soit une cour qui nous éclaire sur la date, les dates précises auxquelles le Canada a accédé à la souveraineté. La Cour suprême a dit entre 1919 et 1931. Il n'y a pas de date fixe, là. C'est pas le 1er juillet 1919, ni la date où le statut de Westminster est entré en vigueur. Ce qui laissait entendre que ça s'est fait progressivement. Par exemple, le Canada est devenu membre de la Société des Nations, un pays membre en 1919. Il a conclu son premier traité en 1923, le traité sur la pêche au flétan sans l'intervention du Royaume-Uni. Mais ce n'est qu'en 1931, finalement, qu'on a pu dire que le Québec et le Canada, je devrais dire,
est
un pays souverain, même si en 1931, et ça jusqu'en 1982, il y avait une compétence qui lui manquait, celle de modifier lui-même sa constitution ou de grandes parties de sa constitution, notamment de l'Amérique du Nord britannique, comme elle s'est appelée jusqu'en 1982. Alors, donc, ça s'est fait progressivement, l'acquisition par le Canada de compétences qui l'ont amené à être un État souverain et indépendant.
Autrement dit, Daniel, comme il m'arrive fréquemment, je serai en désaccord avec cette décision de la Cour suprême du Canada, alors que pour moi, c'est une évidence. Vous n'êtes pas un vrai pays tant que vous ne pouvez pas modifier vous-même la Constitution, votre loi fondamentale. Or, ce n'est qu'avec le rapatriement de la Constitution qui, à nouveau, s'est fait au détriment d'un des États constituants du Canada, soit le Québec, et qui a survenu seulement en 1982, où le Canada, désormais, avait tous les pouvoirs lui permettant de modifier sa loi fondamentale. Alors, pourquoi la Cour suprême a jugé que le Canada était un véritable pays dès 1930, entre 1919 et 31, alors que en 1931, on était à plusieurs décennies encore de ce moment où le Canada pouvait véritablement modifier lui-même sa loi fondamentale?
Ben, la réponse à ça, c'est que le Royaume-Uni ne pouvait intervenir pour modifier la Constitution du Canada qu'à la demande du Canada. Et donc, puisqu'il ne pouvait pas le faire seul, le Parlement du Royaume-Uni, on laissait entendre, donc le Canada était souverain. Et par conséquent, donc, la Cour suprême n'a pas considéré que le pays n'était pas souverain parce qu'il y a une partie des compétences d'amender sa constitution ne lui appartenaient pas en propre parce que c'était quand même seulement avec le consentement du Canada que le Royaume-Uni pouvait intervenir. Mais on a vu quel excès ça a donné parce que quand on a voulu rapatrier cette compétence d'amender sa constitution au complet, ben le Canada l'a fait sans le consentement du Québec. Il y a 9 provinces, puis l'État fédéral, leur législature, ensemble, ont rapatrié ça sans le consentement du Québec. Donc, le Québec a subi ce dernier vestige là, une espèce de colonialisme qui durait. Et le Parlement du Royaume-Uni, finalement, a décidé d'aller de l'avant, même si le Québec n'avait pas consenti. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'entre nous souhaitons l'indépendance du Québec, parce que quand on modifie la Constitution sans consentement d'un de ses peuples fondateurs, alors il y a un problème.
Il y a comme un problème. Maintenant, on va laisser les gens, les neurones de nos auditeurs et auditrices se reposer un peu après deux questions robustes. On va tout de suite, Daniel, aller en chanson. Et cette fois, vous savez, le 24 juin dernier, on célébrait non seulement la nation québécoise, mais on célébrait aussi le 50e anniversaire d'une chanson qui est absolument extraordinaire et qui, peut-être, un jour, pourrait être désignée comme notre hymne national. Et je ne parle pas de la chanson de Raoul Duguay, mais bien de la chanson « Jean du pays » de Gilles Vigneault.
Le temps que l'on prend pour dire « je t'aime », c'est le seul qu'il reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le temps de s'aimer, le jour de le dire, fond comme la neige aux doigts du printemps. Fait tant de nos joies, fait tant de nos rires, ces yeux où nos regards se mirent. C'est demain que j'avais 20 ans. Jean du pays, c'est votre tour de nous laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le ruisseau des jours aujourd'hui s'arrête et forme un étang où chacun peut voir comme en un miroir l'amour qu'il reflète pour ces cœurs à qui je souhaite le temps de vivre leur espoir. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour.
Alors, vous aurez peut-être reconnu la deuxième voix d'un autre monstre de la chanson québécoise, et je parle bien évidemment de Paul Piché, qui, pour cette version de Jean du pays, accompagnait notre poète national et historique. Daniel Turp, professeur à la retraite, professeur émérite de la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Depuis la Révolution tranquille et la prise en main partielle du destin québécois par les Québécoises et les Québécois, l'idéologie canadienne a subi de profondes transformations sociopolitiques. Notamment, le premier ministre canadien, Pierre-Éliott Trudeau, a érigé les droits et libertés individuelles en véritable dogme, tout comme la philosophie associée au multiculturalisme. Ça a eu pour effet de stigmatiser les Québécoises et les Québécois qui, en tant que nation désireuse et nation minoritaire, désireuse d'adopter un cadre législatif lui permettant de mieux protéger son identité, sa culture et ses droits collectifs. Or, le Canada ne peut pas effacer son histoire marquée par une forte discrimination envers plusieurs des nations qui le composent, bien évidemment les francophones, mais aussi les nations autochtones ou encore d'autres groupes tels que les citoyens et les citoyens d'origine asiatique qui en ont bavé, par exemple lors de la Deuxième Guerre mondiale. Selon vous, Est-ce que l'intolérance canadienne envers les francophones, malheureusement toujours très en vogue au Canada anglais, pourrait être le résultat d'un effet de projection, c'est-à-dire qu'ils reprochent aux Québécoises et aux Québécois ce qu'eux-mêmes leur ont fait subir, comme à d'autres groupes nationaux présents au Canada?
Oui, je pense que la réponse à ça, c'est oui. Puis que l'autre commentaire, c'est que c'est inacceptable d'avoir une telle attitude à l'égard de ce qu'ils considèrent, bien sûr, comme des minorités. Tu sais, les francophones du Canada, puis y compris ceux du Québec, parce que dans l'ensemble canadien, les Québécois francophones sont vus comme étant une minorité. Ben, le traitement qui leur a été réservé tout au long des années. Puis encore maintenant, tu sais, le Québec bashing, là, c'est une réalité là, quand on lit les médias du reste du Canada. Alors, j'avais raison aussi de parler des nations autochtones là, qui ont tant subi de discrimination que même un genre chrétien voulait assimiler sans vouloir vraiment reconnaître qu'il s'agissait de nations qui avaient des droits collectifs. Alors, tout ça, c'est bien triste, puis ça change pas beaucoup. Et encore là, c'est une des raisons qui milite en faveur de l'indépendance du Québec et qui fait qu'on garde toujours cette option ouverte, parce que pour vraiment être d'égal à égal, comme le disait d'ailleurs René Lévesque, à la veille du référendum de 1980, ça supposerait qu'on ait l'indépendance et qu'on puisse détenir toutes les compétences. Puis de notre côté, par exemple, au Québec, étant indépendant, de bien traiter la minorité nationale que représentent les anglophones du Québec et les 11 nations autochtones auxquelles on a déjà reconnu le droit à l'autonomie, puis on pourrait reconnaître davantage comme nation méritant d'avoir une autonomie au sein d'un État du Québec.
On change de sujet, Daniel Top. Une dernière question avant la pause musicale. Puis je vous le dis, là, on est à peu près là où ce qu'on veut être pour réussir à poser nos 8 questions. Je suis vraiment très heureux. La scène internationale. Le Canada y a longtemps joué un rôle clé. Pour rappel, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le Canada possédait l'une des plus grandes armées au monde, évidemment un vecteur important dans la définition du statut d'un pays au sein de la communauté internationale. Un autre exemple, c'est que c'est au Canada qu'est née l'idée des casques bleus. Une autre réalisation d'envergure canadienne, en fait une autre réalisation canadienne d'envergure plutôt, est liée à l'adoption de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles en 1997. Or, aujourd'hui, le Canada semble avoir perdu de sa superbe au niveau mondial. Je prends par exemple à témoin les deux revers qu'a subi le Canada dans sa volonté d'occuper l'un des postes de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Daniel Terp, une question toute simple. Comment le Canada en est-il arrivé là, sur la scène internationale, c'est-à-dire avec une perte d'influence et de pouvoir manifeste?
À mon avis, c'est parce qu'il y a eu un manque de leadership. Là. Le leadership que vous évoquiez, qui a fait, par exemple, que le Canada a contribué à la création de casques bleus et que Lester B. Pearson a gagné un prix Nobel de la paix, d'ailleurs, pour cette initiative, depuis lors, il n'y a pas eu vraiment de leadership, puis dans les dernières décennies, encore moins, puis celui qui a probablement nuit le plus au Canada, alors qu'il avait dit lors de l'élection là, que le Canada serait de retour sur la scène internationale, c'est Justin Trudeau. Et donc, le Canada a cessé de faire partie de missions de maintien, consolidation de la paix. Il s'est fait beaucoup d'ennemis aux Nations Unies parce qu'il ne soutenait pas correctement la cause palestinienne ou un certain nombre d'autres questions qui comptaient pour la majorité des membres des Nations Unies. Il s'est beaucoup trop aligné sur la politique américaine avec ce libre-échange là qui aujourd'hui lui coûte cher. Et l'alignement avec les États-Unis, on le voit très bien, là, qui est tellement excessif avec ce retrait même par l'actuel premier ministre Mark Carney de la loi qui visait à taxer les GAFA. Là. Donc, je pense pour toutes ces raisons, le Canada n'a plus la réputation, n'a pas la réputation qu'il devrait avoir comme un pays de grand grandeur moyenne sur la planète. Et c'est une autre raison pour laquelle le Québec devrait être indépendant, parce que comme petit pays, je crois qu'on en ferait bien avantage, on serait bien plus respecté, un peu comme les pays scandinaves, les pays nordiques, la Suède, mais aussi les Pays-Bas et d'autres pays qui font leur marque sur la scène internationale.
Et qui ont beaucoup d'influence, malgré le fait qu'ils ne sont que quelques millions, comme le serait d'ailleurs un Québec indépendant. Monsieur Turp, on a passé de quelques secondes la pause, publicitaire du milieu de cette émission. On va y aller tout de suite. Allez-y rapidement chercher votre eau, parce que je vous dis, ça ne durera pas très longtemps. On sera tout de suite de retour en compagnie de Monsieur Daniel Turp pour parler de cette fameuse fête de la Confédération qui a eu lieu hier, le 1er juillet 2025. Alors, on se voit tout de suite l'autre bord de cette courte pause.
Dit 30 minutes.
L'Auto-Québec présente la fête du Lac des Nations pour Mutuelle Assurance. Du 15 au 20 juillet, venez célébrer à la Sainte-Belle avec nul autre que David Pinault, Tactica.
Nous débuterons à la Brunante entre 20h et 20h30. Et en cas de pluie, soyez-y dès 19h30. Consultez la programmation complète pour préparer votre prochaine sortie au cinéma du 13 juin au 5 septembre. Visitez sherbrooke.ca/cinéma plein air.
CFLX 95.5 FM. Pas pire pantoute.
Valère, Lost, Touveni Cooks et DJ Antoine. Billets en vente au fêtesdulacdesnations.com. En collaboration avec Bell, SAQ, Kepler Gin, Ville de Sherbrooke, Tourisme Québec et Subaru Sherbrooke.
Je suis absolument désolé. On est au mois de juillet et mon fidèle technicien n'est pas au rendez-vous. Alors, ça arrive, ce genre de petit bug technique, là, quand on est un homme orchestre, puis on sait très bien que les hommes ne peuvent faire qu'une chose en même temps, là. Fait qu'imaginez le défi d'en faire quatre. Bref, mes excuses pour cette petite problématique technique, mais on est de retour à l'émission de chansons et de réflexions qui réfléchit aujourd'hui à ce que signifie cette fête de la Confédération qui a eu lieu hier. Et on a évidemment le privilège de réfléchir en compagnie de l'un des plus grands intellectuels contemporains que compte le Québec aujourd'hui, soit Daniel Turp, professeur à la retraite, mais qui fut un professeur émérite à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Daniel, une question complémentaire, comme ils disent à l'Assemblée nationale, hein, là, vous la connaissez, cette fameuse question complémentaire, à la question d'avant sur le rôle, ou plutôt la perte d'influence qu'a subi le Canada sur la scène internationale. On l'a vu dernièrement, là, on a un drôle de voisin, hein, le président de la première puissance mondiale avec qui le Canada partage la plus longue frontière au monde, hein, commune, soit une frontière longue de 8891 kilomètres, en incluant bien évidemment la frontière Québec-États-Unis. Ben, ce président ne cesse de faire référence à une possible intégration du Canada à titre de 51e État, ce qui serait évidemment contraire au droit international, de même qu'à l'ensemble des traités liant le Canada ou aux États-Unis. Or, mettons que les réactions à l'international ont été plutôt mièvres sur une menace qui ne peut être balayée du revers de la main de par le degré de folie qu'elle représente. Daniel Turp, que pensez-vous de ce silence assourdissant, là, outre le petit bémol apporté par notre ami Emmanuel Macron lors du G7? Est-ce que ce silence serait en partie lié à la fameuse perte d'influence du Canada sur la scène internationale?
Oui, je pense que ça aussi, c'est une analyse qui se tient bien. Là, le fait que le président des États-Unis menace le Canada, il l'a fait en disant que c'est par la force économique qu'il procéderait à cette annexion. Il avait été encore un peu plus, plus agressif avec le Danemark en disant que le Groenland, ce serait même par la force militaire qu'il le ferait, ce qu'il n'a pas fait encore. Mais sais, on le voit bien avec les négociations actuelles ou l'absence de négociations ou les tarifs, puis les suspensions, puis les reprises de tarifs, que c'est effectivement ça qu'il est en train de faire. Il essaie d'affaiblir le Canada pour essayer de tenter de convaincre les Canadiens qu'il serait mieux au sein des États-Unis. Et quand très peu de pays viennent à la défense du Canada et sont silencieux, ben effectivement, le Canada n'a pas beaucoup d'alliés dans le monde, de toute évidence. Mais je pense pas que ça va se produire, puis les Québécois seront les premiers au front pour pas que ça se produise, parce que, à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'avantages.
Ben, on paierait pas une scène pour le dôme en or, là, qu'il semble dire.
En effet. De toute façon, tu sais, il y a eu des tentations québécoises. Il y a déjà eu un Louis-Joseph Papineau qui avait évoqué l'idée que le Québec devrait peut-être devenir un État américain parce que le Canada n'était pas un pays démocrate ou une colonie démocrate avec un gouvernement responsable. Il y a déjà un Parti 51 au Québec. Mais je pense qu'aujourd'hui, les Québécois sont loin de vouloir devenir américains. J'espère surtout qu'ils vont vouloir un jour devenir un État indépendant qui négociera avec les États-Unis ce qu'il pourra négocier parce qu'il sera justement indépendant.
Indépendant et donc d'égal à égal, peu importe la différence de population ou de richesse, comme c'est le cas avec tant d'autres pays dans le monde. Une autre question avant une pause musicale. Le père du Canada moderne, puis on en parle évidemment puisque Pierre-Éliott Trudeau a immensément d'importance dans la structure et l'idéologie, les instances canadiennes modernes, si je peux dire, là, et là je mets des guillemets. Donc, ce dernier avait pour ambition de définir et faire adopter une constitution qui allait durer 1000 ans. Bon, on va repasser pour les comparaisons, là, parce qu'il y en a d'autres qui voulaient que des trucs durent 1000 ans, là. Or, avec le temps, on s'aperçoit que c'est moins la qualité du texte fondateur ou sa capacité à s'adapter à l'évolution des sociétés canadiennes et québécoises qui lui garantirait une telle durée de vie, mais bien la complexité de sa formule d'amendement, voire l'absence de volonté politique quant à la modernisation de cette loi. On le voit souvent, là, les politiques canadiens, là, au lieu de prendre leurs responsabilités, faire preuve de leadership et réunir l'ensemble des acteurs politiques canadiens et donc ceux québécois aussi pour redéfinir le contrat politique à travers duquel on doit évoluer, ben ce qu'ils préfèrent, c'est de donner ça à la Cour suprême. Tu peux donner ça au tribunal, là. Écoutez, la société évolue, là. Qu'est-ce que vous en pensez, là? Or, le dossier de l'abolition de la monarchie ou encore celui de la fameuse clause nonobstant ou clause dérogatoire, voire même clause de souveraineté parlementaire, sont de bons exemples de l'incapacité du Canada à s'adapter à l'évolution de sa société. Une question toute simple, Daniel Tull. Est-ce que le Canada est réformable?
Ben, moi, je crois que non. Et c'est pour ça que je suis un avocat de l'indépendance du Québec. Parce que, tu sais, le Québec a toujours voulu réformer la Constitution du Canada. Et pourquoi? Pour être reconnu comme une nation au sein de ce pays, pour détenir plus d'autonomie, donc d'avoir davantage de compétences là, au plan non seulement culturel, linguistique, mais aussi social et économique. Puis, il n'a jamais eu davantage d'autonomie depuis 1867. Au contraire, son autonomie était réduite par la Cour suprême du Canada, puis par le rapatriement unilatéral. Et donc, quelque part, l'absence de capacité de se réformer justifie qu'on veuille l'indépendance pour le Québec. Puis il y a d'autres provinces qui commencent à penser comme ça. L'Alberta, pourquoi est-ce qu'il y a une montée du sentiment indépendantiste en Alberta? C'est parce qu'ils veulent plus d'autonomie, puis Ottawa leur refuse plus d'autonomie. Alors, le pays s'en va en centralisant, puis on voit bien même M. Carney veut créer une économie canadienne, puis il veut faire des projets d'intérêt national, puis vous allez voir, là, bientôt, on va dire, on fait des projets d'intérêt national, mais on n'a pas vraiment besoin du consentement des provinces. C'est ça qui risque d'arriver.
J'ai le goût de vous donner raison, malheureusement. Si le passé est garant de l'avenir, effectivement, le Québec ne sera absolument pas consulté pour des projets du genre des oléoducs ou des pipelines qui, si aujourd'hui ou suite à la menace du 50e État, ont retrouvé un peu de grâce aux yeux des Québécoises et des Québécois, faut comprendre que ce type de projet-là se réalise sur 10-15 ans. Qu'est-ce qui va en rester dans 10-15 ans alors qu'Ottawa n'aura pas à nous demander la permission? J'ai hâte, ou pas tant, mais enfin, nous verrons nécessairement. On va aller à la pause musicale avec une chanson, moi, qui me donne espoir. Une chanson de René Claude qui date de 1970 et elle s'intitule « Le début d'un temps nouveau ».
Du cerveau, les couleurs se mêlent sur la peau. C'est le début d'un temps nouveau. On commence à se parler en peine, on commence à parler doucement, à se dire je t'aime sur je t'aime, et ça donne les plus beaux enfants, et ça donne les plus beaux enfants, et ça donne les plus beaux enfants. On connaît les détours du tour du monde. Les yeux de cinérama, nos âmes sont devenues des ballons sondes, et l'infini ne nous effraie pas, et l'infini ne nous effraie pas, et l'infini ne nous effraie pas. C'est le début d'un temps nouveau, la terre est à l'année zéro, la moitié des gens n'ont pas 30 ans, les femmes font l'amour librement, les hommes ne travaillent presque plus, le bonheur est la seule vertu. C'est le début. Cumulus du tambour, ceux du ciel et ceux du cerveau, les couleurs se mêlent sur la peau. C'est le début d'un temps nouveau. C'est le début d'un, c'est le début d'un temps nouveau. La terre est à l'année zéro, la moitié des gens n'ont pas 30 ans. Les femmes font l'amour librement, les hommes ne travaillent presque plus. Le bonheur est la seule vertu.
Ah, cette René Claude qui, comment dire, ne se démode pas. C'est le début d'un temps nouveau. 1970, c'est la chanson de l'été de vos 15 ans, Daniel Teub. Mais bon, ça va arriver avec un peu de retard, mais c'est pas grave. Il va arriver ce temps nouveau où nous serons des oiseaux. On entame évidemment Daniel Teub, professeur de droit à l'Université de Montréal, à la retraite, mais quand même, le dernier segment de cette émission. Il nous reste une dernière pause musicale, mais surtout deux dernières questions. On aura réussi notre pari. Daniel Teub, vous avez été avocat. Bon, vous avez, c'est pas le métier que vous avez le plus pratiqué, mais quand même, vous avez été membre du barreau durant plusieurs décennies. Vous êtes donc nécessairement, vous possédez donc nécessairement une connaissance approfondie de la réalité judiciaire, des tribunaux, de la magistrature, etc. Est-ce que vous accepteriez de nous décrire l'importance qu'ont les tribunaux canadiens dans la vie, dans la définition du vivre ensemble, et notamment leur capacité à réécrire nos lois grâce à la jurisprudence, quelque chose qui, mettons, qu'avec le temps, peut être questionnable, alors qu'on le sait, les juges ne sont pas des élus, ce sont des gens qui n'ont aucun compte à rendre aux Canadiens, aux Canadiennes, aux Québécoises et aux Québécois. Or, quel est leur véritable pouvoir au Canada, puis à quelque part, est-ce que c'est problématique?
Vous savez, dans un état de droit, puis je pense qu'il faut aspirer d'être un État de droit, ce qui veut dire que c'est un État où on est régi par le droit, par une constitution, par des lois, par des règlements qu'on doit connaître, nul n'est censé les ignorer. Les tribunaux jouent un rôle important. Ils jouent un rôle d'autant plus important qu'on cherche à équilibrer les pouvoirs, là. Le pouvoir législatif, donc le Parlement, le pouvoir exécutif, le gouvernement, et le pouvoir judiciaire, donc la magistrature, des tribunaux inférieurs, supérieurs. Et donc, c'est important, les tribunaux, les juges, pour qu'ils exercent un contrôle sur la façon dont à la fois le Parlement et le gouvernement respectent les lois, respectent l'État de droit. Ce qui pose problème chez nous, là, c'est la façon dont ils sont nommés d'abord, quand ils sont seulement nommés par l'exécutif, puis finalement le premier ministre. Alors, c'est pas toujours des bons choix qui sont faits, c'est pas toujours des juges qui sont indépendants. Ils ont fait beaucoup de politique, trop de politique. Ils ont fait des dons à des partis politiques, ils sont récompensés pour ça, plutôt que choisis pour leurs compétences. Et aussi, quand on a confié au juge la responsabilité d'appliquer des chartes des droits individuels sans tenir compte des droits collectifs, souvent, les juges, on l'avait dit au Québec, donnent plus d'importance aux droits individuels qu'aux droits collectifs. Et ça pose un problème lorsqu'il s'agit du Québec ou des minorités, parce que les juges ne pensent qu'en termes de droits individuels. Alors, on a un problème, nous, au Canada, avec ce qu'on appelle le gouvernement des juges, parce que depuis 82, on vit dans un système de gouvernement des juges.
Quand vous parlez de gouvernement des juges, là, on comprend donc que les juges sont en mesure de faire un peu ce qu'un gouvernement fait normalement, c'est adopter des lois. Évidemment, ils n'adoptent pas des lois, mais par le concept qu'on appelle la jurisprudence, ils en viennent à, comment dire, définir à un tel point l'interprétation qu'on devrait avoir d'une telle loi. Ils la définissent à un tel point que ça n'en vient parfois à l'équivalent de réécrire la dite loi.
Exactement. Prenons l'exemple de l'affichage au Québec. Quand le gouvernement de René Lévesque a présenté au Parlement la loi 1, depuis la loi 101, la Charte des langues françaises, on avait dit que l'affichage ne devrait être qu'en français. Hein? Et là, finalement, les juges...
Oups! Oh! On a perdu le cher Daniel à l'émission. Là, c'est quelque chose, ça m'est jamais arrivé. Je vais essayer de le joindre à l'instant. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, on était un peu en avance sur notre horaire. Alors, je vais appeler Daniel qui était au bout du fil. Ça devrait prendre quelques secondes. Il est de retour.
Oui, donc, je suis de retour.
Extraordinaire. Donc, désolé, chers auditeurs, là, pour le petit ennui technique. Donc, vous disiez, là, prenons exemple, là, la charte québécoise là, qui avait été adoptée, qui prévoyait notamment un affichage uniquement en français, et c'est là que ça a coupé.
Oui, c'est là que la Cour suprême a décidé, non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Moi, j'interprète la liberté d'expression comme aussi appartenant au commerce, aux commerçants, puis ils ont le droit d'utiliser l'anglais. Puis la seule chose qu'ils avaient le droit de faire, c'est accepter ou imposer la prédominance de la langue française, un tiers, deux tiers en faveur du français. Alors, donc, ça, c'est quoi, sinon que de légiférer à la place du Parlement du Québec, puis... Aussi, peut-être qu'on va voir bientôt la Cour suprême décider qu'on n'avait pas le droit d'appliquer le principe de la laïcité en interdisant pour les fonctionnaires et un certain nombre d'autres personnes qui exercent l'autorité au sein de l'État québécois, c'est de porter des signes religieux. Alors là, donc, c'est les juges de la Cour suprême qui vont décider ça, alors que le Parlement du Québec a adopté très majoritairement la loi sur la laïcité. Alors, donc, il y a une clause érogatoire, mais quand on l'utilise, on laisse entendre qu'on viole les droits individuels de façon inacceptable. Alors, quelque part, tu sais, quand on va décider de faire un Québec souverain, il faudra prendre nos précautions pour que les juges aient un rôle fondamental, mais qu'ils ne se n'usurpe pas le pouvoir législatif et même dans certains cas le pouvoir exécutif.
Il ne l'usurpe pas, bon, on parle aux élus, mais au fond, qui sont les élus, sinon les représentants et les représentantes de la nation qui les désignent. Autrement dit, il va falloir s'assurer que les futurs juges québécois n'aient pas cette capacité à usurper les décisions, les choix faits par le peuple qui, à mes yeux, est le véritable fondé de pouvoir. Ce n'est pas comme c'est le cas actuellement, le fondé de pouvoir comme c'est le cas actuellement au Canada. Ce n'est pas Dieu qui devrait décider de ce qui s'y passe. Daniel Turp, on va aller à une dernière pause musicale. Et là, je pense que c'est la première et unique chanson en anglais que je ferai jouer à cette émission depuis 3 ans. C'est une chanson que j'étais quand même très fier de trouver dans le répertoire de CFLX, une chanson écrite par mon oncle Serge, la dernière chanson de son album « Mon voyage au Canada », et elle est intitulée assez simplement « Le Canada is not my country ».
Frenchmen came from France to exterminate Indians, satisfy their appetite for genocide. They proliferated like vermin, so today we are millions dreaming of destruction, waiting for secession, preparing the final assault to avenge the plains of Abraham. Insult, dreaming of pogroms and referendums, reading Mein Kampf and Lionel Grew anthology, not giving a shit about the right of minorities to ignore our half-dead tongue. You know we're wrong, why don't you open your eyes and you will see that Canada is not our country. Identify with a country where human rights are king, an open-minded land where multiculturalism is the thing. Don't you see? My heart is full of hatred, retrograde ideas, racist beliefs. There is no place there for a maple leaf. Between two mouthfuls of pea soup, I count my munitions, I polish my 22. I wanna crush this miserable beaver under my thumb, strangle ministers, wear brown shirts, plant bombs. I like the sound of the boots in the military march and the Parti Québécois membership cards. Why don't you set me free? Why don't you see that Canada is not my country?
Non, mais quelle ironie, ce cher mon oncle Serge. J'en ai mal au ventre tellement ça me fait rire, cette chanson. Vous aurez compris, évidemment, que monsieur mon oncle Serge ne pense pas tout à fait tout ce qu'il chante. Daniel Turp, professeur à la retraite, mais émérite de la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Et si je le redis, c'est parce que c'est pas tout le monde qui écoute l'émission au complet. Fait que pour celles et ceux qui viennent de se joindre à nous, là, je leur rappelle avec qui on a le bonheur d'avoir une entrevue aujourd'hui qui porte évidemment sur le jour de la Confédération. Une dernière question, Daniel Terp, lors de sa conférence de presse annuelle, un de mes préférés, je vous avoue, là, depuis que je le connais, cet homme, il me fait très rire. Le juge en chef de la Cour suprême, l'honorable Richard Wagner, a présenté le Canada comme une superpuissance de l'État de droit. Hein? On n'est pas dans la petite bière, mon ami. Or, une telle affirmation peut certes faire sourciller. Pensons à la crise d'octobre 1970, au rapatriement de la Constitution du Canada, qui, on le rappelle, a été fait au détriment de l'une des parties constituantes du Canada, à l'érection de l'invasion des champs de compétences conférés aux États fédérés par le gouvernement fédéral comme une véritable politique de construction nationale. Je vous rappelle les mots de Premier ministre Trudeau Justin, cette fois-là, qui disait, il y a quelques mois, « Les champs de compétences, tout le monde s'en fout ». Ben, écoute, monsieur et madame, tout le monde, c'est tel que tel, mais toi, comme premier ministre du Canada, tu devrais pas te foutre de la constitution de ton pays. Ou encore l'incapacité, puis ça, je l'aime aussi, de la Cour suprême elle-même de respecter la loi sur les langues officielles. En un mot comme en mille, Daniel Terp, est-ce que le Canada est une super puissance du respect de l'État de droit?
Mais non. Puis vous avez peut-être oublié de parler du moment où il s'est montré, puis ça, il y a plus de 50 ans, comme n'étant pas un État de droit, quand il y a eu la crise d'octobre, et quand on a suspendu les libertés les plus fondamentales des Québécois. Et donc ça, c'est un exemple qui mérite d'être aussi cité pour dire que le Canada ne devrait pas trop se vanter d'être un État de droit dans son histoire. Puis si on veut un exemple très, très actuel, comment, dans un État de droit, peut-on justifier que Mark Carney décide de suspendre, ne plus collecter les taxes pour les GAFA qui ont été adoptées par le Parlement et en disant qu'il va abolir la loi plus tard, il va abroger la loi plus tard? Alors qu'il n'y a d'ailleurs aucune assurance qu'elle puisse être abrogée parce qu'il n'y a même pas de majorité au Parlement. Alors, moi, ça me dérange, là, cette espèce de vantardise, là, de juge en chef d'une Cour suprême, comme parfois d'un premier ministre qui dit que le Canada est le meilleur pays au monde. Moi, je pense que les pays devraient être plus modestes. J'espère que mon Québec, souverain indépendant, sera plus modeste. Mais l'important, c'est d'être un véritable État de droit, de donner l'exemple, d'être un exemple dans le monde. Puis le Canada n'est pas le meilleur exemple d'un État de droit dans le monde actuel.
Daniel Terp, l'émission tire à sa fin. Évidemment, on pourrait parler longtemps du Canada, des relations Québec-Canada. J'espère que les auditeurs et auditrices de cette émission auront apprécié ce moment de partage que vous aurez accepté de nous offrir, qui leur permettront, du moins je l'espère, de mieux comprendre les origines et la dynamique sociopolitique la dynamique sociopolitique générale finalement qui occurre actuellement au Canada et qui a un impact évidemment chez nous au Québec, qui est encore aujourd'hui le territoire d'une véritable nation, soit la nation québécoise, que sa culture, son histoire, sa langue qui lui est propre et qui, je l'espère, pourra la faire rayonner, de manière indépendante et sans gêne sur la scène internationale au cours des prochaines années. J'informe...
Étienne, Alexis, est-ce qu'on aura réussi à répondre à toutes les questions?
On a réussi à relever ce défi. Je vois vous avouer, Daniel, vous connaissant, vous avez fait d'immenses efforts de concision dans vos réponses. Je vous remercie beaucoup. J'espère qu'on aura contribué à permettre aux gens de passer un bel été. Profitez-en, chers auditeurs et auditrices. Pour nous, on va être de retour en ondes en direct seulement le 13 août prochain pour parler de l'importance du soft power québécois, c'est-à-dire sa capacité à projeter sa force culturelle sur la scène internationale. Une vérité là, qui est à peu près unique dans le monde. Hein. Il n'y a que très peu de nations non souveraines qui réussissent, comme le Québec, à être aussi présent sur la scène internationale. D'ici là, prenez soin de vous. Encore une fois, Daniel, je vous remercie énormément d'avoir accepté notre invitation à cette émission.
Bon été à tous et toutes.
Et sur ce, profitez-en, bonne réflexion et au plaisir de vous retrouver sous peu. Et bonne fête de la Confédération, mais profitez surtout du cher blues qui commence aujourd'hui sur la rue Wellington. À bientôt et au plaisir.
58 minutes.
Ici Geneviève Hébert, députée de Saint-François à l'Assemblée nationale du Québec. Jean de Sherbrooke, cet été, célébrons en grand les petits plaisirs que la ville a à nous offrir. Du Centreau jusqu'à ses nombreux parcs, Sherbrooke déborde de vie, de saveurs, de musique et de fierté. C'est le moment parfait pour découvrir, savourer et pourquoi pas flâner un peu. Encourageons nos commerçants et nos entrepreneurs. Laissons-nous séduire par les plaisirs locaux et vibrons au rythme de la saison chaude. Sherbrooke, je te souhaite un merveilleux été.
Des mercredis rock pas pire pantoute à CFLX avec Chris Brown, Gérald Bourgault et Patrice Desmarais. Dès 16h, on débute avec le rock et ses racines, suivi des manèques au progressif de 18 à 19h et OK Boomers de 19 à 22h. Pour ceux qui se couchent tard et qui veulent plus de rock, on termine le tout avec le monde du rock la nuit. CFLX, la vraie radio rock en Estrie.